Midi 50 minutes, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission L'épreuve des faits. Je suis rejoint par le journaliste Philippe Pesant-Bellemare. Bonjour Philippe.
Bonjour François.
Alors Philippe, tu viens de nous parler du projet de loi 57.
Oui, projet de loi qui s'intitule « Loi édictant la loi visant à protéger les élus et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal ». Grosso modo, c'est un projet de loi qui est à l'étude cette semaine à l'Assemblée nationale qui a pour objectif justement là, de protéger les élus provinciaux et municipaux lorsqu'ils sont confrontés à des rapports toxiques avec certains citoyens et à leur donner des outils devant ces situations-là. Un projet de loi donc qui est salué et appuyé autant par la Fédération québécoise des municipalités, donc la FQM, et par l'Union des municipalités du Québec, donc l'UMQ, qui eux-mêmes avaient demandé à Québec de légiférer en la matière pour améliorer le climat politique. Entre autres, on le sait, il y a eu beaucoup d'élus municipaux, entre autres, qui ont démissionné depuis le dernier scrutin général municipal en 2021. C'est un projet de loi quand même qui soulève certaines réserves au sein de la société civile, notamment bon, le premier chapitre du projet de loi qui prévoit des mesures pour limiter les comportements jugés harcelants, menaçants ou intimidants de la part des citoyens à l'égard des élus. Donc, je vais lire un peu, je vais résumer en fait à quoi ça ressemble. Ainsi, si un élu fait l'objet de propos ou de gestes qui entravent indûment l'exercice de leurs fonctions ou portent atteinte à leur vie privée, donc les élus pourraient demander à la Cour supérieure de prononcer une injonction pour y mettre fin. Et là, à ce moment-là, la cour pourrait ordonner à une personne de ne pas se trouver dans les bureaux ou les séances municipales où est-ce que les élus se trouvent, de cesser de communiquer avec les élus en question, de cesser de diffuser dans l'espace public des propos jugés
diffamatoires,
offensants, etc., ou harcelants. Bon, bref, c'est quand même...
Ça ratisse assez large.
Ça peut ratisser assez large et c'est des amendes aussi qui peuvent aller jusqu'à 1 500 $, donc, et même à l'échelle municipale, il y a la possibilité que ce soit une poursuite pénale. Donc, personne, évidemment, est contre la vertu. Hein. On le sait, là, je pense que tout le monde souhaite que les comportements toxiques cessent dans l'exercice de la démocratie. Mais bon, c'est ça. Comme je disais, il y a certaines organisations, telles que la Ligue des droits et libertés, qui dénoncent le texte de loi, et plus précisément, comme je disais, le chapitre 1 là, que je vous ai résumé, là, qui présente des risques sérieux. Là, je cite ce qu'ils ont écrit dans leur communiqué, qui présente des risques sérieux d'atteinte aux libertés d'expression, d'opinion et d'association, et sans pour autant résoudre donc les problématiques vécues par les élus. Donc, demain midi, François, on va entendre les réactions du maire et président de la communauté maritime, Anthony Valiquette, et du maire de Victoriaville et premier vice-président de la Fédération québécoise des municipalités, Antoine Tardy, en ce qui a trait au dépôt de ce projet de loi. Mais dans un premier temps, ce midi, là, je vous laisse entendre l'entrevue que j'ai réalisée hier après-midi avec la coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés, Laurence Guénette.
Premièrement, c'est important pour nous que tout le monde comprenne bien qu'on est tout à fait sensible aux situations que vivent certains élus dans le cadre de leurs fonctions. Donc, les enjeux qu'on a vus au cours des derniers mois, des dernières années, qui provoquent des situations extrêmement difficiles pour les élus, premièrement, c'est pas qu'on n'y est pas sensible. Okay? Pour nous, c'est que le projet de loi 57, qui a été déposé très rapidement, il y a à peine 3 semaines, et dans un processus très accéléré, il vient apporter des solutions qui ne sont pas les bonnes et qui, en plus, risquent d'avoir des impacts négatifs sur la participation citoyenne au débat démocratique et plus spécifiquement sur la liberté d'expression. On est très préoccupés, en fait, de ce projet de loi-là, malgré l'importance des enjeux vécus par les personnes élues.
Et est-ce qu'il y a des solutions alternatives qui auraient pu être peut-être priorisées à ce moment-là plutôt que cette forme-là que prend le projet de loi 57?
Oui, il y en a plusieurs, notamment qui ont été aussi mentionnés, je crois, lors du dépôt du projet de loi. Il y avait des formations, des efforts de sensibilisation, aussi des recommandations qui avaient été faites de favoriser une meilleure communication entre les citoyens et les personnes élues. Puis quand on parle de formation, c'était autant pour les élus que pour les citoyens et citoyennes. Donc, c'était plus des mesures constructives qui visaient à venir valoriser, je pense, la vie démocratique puis renforcer ces liens-là entre les élus et la population. Donc oui, nous, on voyait dans ces pistes-là des solutions très intéressantes, alors que le projet de loi 57 n'amène pas de réponse réelle aux situations vécues par les élus, en plus de poser problème du niveau des droits humains.
Et justement, j'aimerais peut-être revenir, là, vous avez parlé des craintes que ça peut vous créer du côté de la Ligue des droits et libertés par rapport à la vie démocratique. Qu'est-ce qu'on veut dire par là exactement? C'est quoi les risques ou les préoccupations qu'on a par rapport à ça?
Oui, en fait, les principales préoccupations qu'on a, c'est vraiment que une politique ou une loi qui se veut dans son intention de prévention de la violence, du harcèlement ou ce genre de comportement, dans les faits, en raison de la discrétion qu'elle laisse, de l'interprétation, du fait que certains mots ne sont pas clairement définis, de sa portée très vaste, elle pourrait être instrumentalisée, en fait, pour faire taire certains citoyens et citoyennes dans des contextes où il y a des débats démocratiques autour d'enjeux relativement controversés. Puis on a eu des exemples de ce genre de situation au cours des derniers mois. Donc, je pense notamment l'été dernier, là, à Trois-Rivières, il y a eu des situations compliquées au conseil municipal où il y avait des citoyens et citoyennes qui s'opposaient à un projet de développement industriel. Donc, c'était des citoyens et citoyennes écologistes qui s'opposaient à la destruction des milieux humides et qui dénonçaient, en fait, l'absence de processus démocratique pour avaliser le projet de développement industriel. Et dans ce contexte-là, bon, ces personnes-là ont brandi durant une séance du conseil municipal des pancartes et une bannière. Ils ont chanté des slogans concernant les milieux humides. Et donc, vous voyez, pour nous, bon, premièrement, il faut dire que la réaction du conseil municipal, du maire, en fait, a été très disproportionnée. Il a fait intervenir la police. Les portes du conseil municipal sont restées verrouillées pour tout le reste de la séance. Alors que pour la Ligue des droits et libertés, ben, c'est de l'action politique tout à fait légitime qui n'a pas mis en péril la sécurité de qui que ce soit. Et c'est le genre de perturbation ou de petit désordre, en fin de compte, qu'il faut savoir tolérer dans une démocratie. Donc, c'est un exemple assez éloquent de ce que nous, on trouve qui pourrait nuire à l'action politique. Parce qu'à chaque fois que les citoyens et citoyennes essaient de s'exprimer, de faire valoir leur point de vue, mais se retrouvent face à des décisions qui manquent de transparence ou qui sont prises sans débat démocratique ou dans la précipitation, ben parfois, le seul moyen de se faire entendre pour la justice sociale, c'est de faire des actions qui sont un peu perturbatrices. Et du moment que ces actions-là viennent pas mettre en péril l'intégrité physique ou psychologique des personnes, là, on pense vraiment qu'il faut laisser de l'espace à cette contestation sociale-là dans nos espaces démocratiques. Et à cet égard-là, on a très peur que le projet de loi 57, tel qu'il est proposé, aille en fait réprimer et même dissuader les citoyens et citoyennes de s'exprimer librement.
Et justement, vous parliez, bon, l'intégrité physique et psychologique des élus, de ce qu'on en comprend des revendications, entre autres, du secteur municipal. On sait que la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec appuient ce projet de loi-là. Une des revendications, c'est justement de resserrer les règles entourant la gestion de ces cas-là, bon, de harcèlement ou d'intimidation qu'il peut y avoir, notamment. J'ai cru comprendre que la réponse de la Ligue, c'est de dire qu'il y a déjà des mécanismes qui existent. Est-ce que vous pourriez nous parler de ça un petit peu, peut-être? Est-ce que les mécanismes actuels qui sont là suffisent ou est-ce qu'il ne faudrait pas, d'ailleurs, peut-être les améliorer?
Écoutez, en ce qui concerne spécifiquement des situations où il y a des comportements de harcèlement ou d'intimidation, et c'est donc, les exemples que je vous donnais ne sont pas à l'effet de comportements harcelants ou intimidants, là. Mais lorsqu'il y a des situations de harcèlement ou d'intimidation, oui, les recours judiciaires existent déjà depuis fort longtemps. On le détaille un peu plus dans notre mémoire, là, mais c'est que les mesures qui sont ajoutées par le projet de loi 57, l'ajout d'infractions au code criminel ou par exemple l'enjeu des injonctions, ben, c'est redondant en fait avec les outils judiciaires qui existent déjà. Donc, il y a ça d'une part. D'autre part, il y a le fait de qu'est-ce qu'on définit exactement comme étant de l'intimidation ou du harcèlement. Je vais vous donner un autre exemple qui est extrêmement éloquent. Il y a un groupe communautaire des Laurentides en novembre dernier, alors qu'il y avait le projet de loi 15 là, sur la santé et les services sociaux qui faisait beaucoup de controverses, il y avait beaucoup d'opposition citoyenne à ce projet de loi-là. Donc, le groupe communautaire de Laurentides a participé à une campagne d'envoi de lettres et a envoyé 10 courriels aux députés de la région en mettant en copie le bureau de circonscription de M. François Legault, premier ministre. Et suite à ces 10 courriels-là, ils ont reçu une réponse à l'effet que ça constituait du harcèlement de recevoir autant de courriels non sollicités et que le bureau de circonscription allait envisager des mesures, peut-être même recourir à la Sûreté du Québec. Donc, ça, c'est un autre exemple. Quand il y a des réelles situations de harcèlement, bien sûr qu'on veut que les élus puissent y mettre fin en s'emparant des recours judiciaires qui existent déjà, mais c'est dans cette définition-là de ce qui est du harcèlement que le PL 57 nous inquiète au plus haut point. Parce que si d'envoyer 10 courriels à des élus est considéré comme du harcèlement, on a un réel problème qui risque ensuite d'avoir des répercussions vraiment exagérées sur les citoyens et citoyennes qui essayent d'exprimer leurs opinions, en fait.
Donc, cette semaine qu'ont lieu les consultations sur ce projet de loi-là, est-ce que Québec semble réceptif à ces préoccupations-là que vous exprimez?
Ben, écoutez, je pense qu'on n'a pas eu le temps encore de constater à quel point Québec se montre réceptif ou pas. Les consultations ont commencé ce matin, là, donc mardi matin. Ce qu'on peut dénoter déjà, c'est qu'on n'est pas les seuls hein, à la Ligue à être très préoccupés par ce projet de loi-là. Il y a des dizaines de groupes là, dans les dernières deux semaines qui ont exprimé des préoccupations et surtout, on se retrouve à nouveau devant un processus extrêmement accéléré. Le projet de loi a été déposé le 10 avril. Nous, on est en consultation aujourd'hui, on partage notre mémoire, nos analyses. On a reçu la convocation pour ça mardi dernier. Donc, 5 jours ouvrables avant la date de notre audition. Donc, on est devant cette précipitation-là qui, je vous dirais, d'emblée, n'est pas du tout souhaitable pour le processus démocratique. Et évidemment, on espère que les élus, en fait, tant les élus de l'Assemblée nationale que les élus municipaux aussi, seront sensibles à nos préoccupations et qui sont partagées par de nombreux groupes communautaires, syndicaux puis de la société civile.
Donc, Laurence Guénette, coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Alors, Philippe, on voit que bien que l'intention de la loi, du projet de loi soit d'assainir le discours politique, son application soulève quand même plusieurs questions.
Oui, effectivement. Puis on aura l'occasion d'y revenir demain, comme on disait plus tôt, là, donc avec la réaction du maire Valiquette à ce projet de loi-là, mais aussi du premier vice-président de la Fédération québécoise des municipalités, Antoine Tardy. À noter aussi là, que le député des Îles à l'Assemblée nationale, Joël Arsenault, a été invité à commenter le dossier, mais n'a pas tenu à le faire tant que les consultations ne sont pas achevées.
Merci beaucoup, Philippe, pour ce suivi.
Merci, François.